Vincent Chalais, notre invité dans l'Olivresse cette semaine. Moi, je me régale, on est plongé dans la période médiévale. Je découvre l'existence des états généraux. C'est un mot que j'ai déjà entendu, états généraux. Mais je n'avais pas réalisé que les états généraux de Languedoc se réunissaient à différents endroits et assez souvent dans une année, selon les besoins du roi de France.
Oui, tout à fait. Le terme d'états généraux, c'est un terme qu'on associe systématiquement à la Révolution française, hein, et évidemment, aux états généraux de 1789.
Enfin, oui.
Et en fait, on oublie que ces états généraux sont une invention qui est une invention médiévale.
Quel est le rapport avec les Tuchins? Parce que vous m'avez dit, parce que on s'intéresse à la révolte des Tuchins. Donc, c'est les personnes qui se révoltent parce que les armées, les routiers, quand ils passent dans une commune, ils pillent tout au passage. Donc, au départ, c'était de se mettre à l'abri. Puis finalement, on s'organise, on fait une petite armée. On revient au face-à-face dont vous m'aviez parlé. Donc, l'armée des routiers arrive, l'armée des Tuchins est en face. Ils sont organisés, ils ont des épées, ils sont plutôt un petit peu efficaces malgré tout.
Alors, je dirais que dans un affrontement en face à face, armée contre armée, ils tiennent pas le choc.
Ils tiennent pas le choc,
non.
D'accord.
On a un seul exemple, en fait, où ils essaient véritablement, avec l'appui d'ailleurs des milices communales de Nîmes, de s'opposer à des arbalétriers, qui sont des arbalétriers génois, notamment des mercenaires génois, qui ont deux capitaines qui s'appellent Grimaldi, hein, qui est une grande famille génoise, hein, évidemment. Et ils tiennent pas le choc et ils laissent plusieurs, visiblement, dizaines d'hommes sur le terrain. Donc, ils s'y risquent pas trop par la suite, hein, notamment parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas d'arbalétrier dans leur rang. Et l'arbalète, c'est quand même une arme particulièrement dissuasive sur le champ de bataille. Donc, ce qu'ils font par la suite, ce sont plutôt des coups de main. Ce sont plutôt des coups de main rapides, des contre-razzias, notamment lorsqu'il y a des routiers qui viennent piller le bétail, par exemple. On les voit ensuite se lancer à la poursuite de ces routiers et essayer de récupérer le bétail. Donc ils font plutôt des choses de ce type-là, ou alors des coups de main sur des châteaux.
C'est quoi le terme coup de main? Parce que moi, vous donnez un coup de main, vous avez deux gros sacs à porter, je vais vous donner un coup de main, j'en prends un. Qu'est-ce que ça veut dire?
Des opérations qui sont des opérations relativement rapides, relativement ciblées, et qui vont viser en fait l'adversaire dans l'un de ses moments de faiblesse.
Comme le loup qui veut attraper un bétail, il va essayer de se trouver, il ne peut pas attaquer tout le bétail en entier, il va essayer d'isoler quelqu'un à côté.
Exactement, et donc par exemple, ils vont attaquer des hommes d'armes qui sont plutôt isolés.
D'accord. Quel est le rapport avec les états généraux? Parce que vous m'avez dit que dans leur révolte, ils étaient quand même assez... Enfin, il y avait des liens entre eux, mais plutôt par Seine-Chaussée. Vous
oui.
m'avez dit, pas
oui.
tant au niveau régional, parce que l'Occitanie, c'est vaste. Quel est le rapport avec les états généraux?
Alors, le rapport, en fait, c'est la question de la fiscalité et la question de la légitime autodéfense.
D'accord.
C'est-à-dire que, d'une part, les états généraux vont essayer de jouer sur la fiscalité, par rapport aux demandes du roi, notamment d'ailleurs sur la manière dont on lève l'impôt.
Oui.
C'est-à-dire, est-ce qu'on privilégie un impôt qui est un impôt direct ou est-ce qu'on privilégie un impôt qui est un impôt indirect? L'impôt direct, il est plutôt plus équitable, on va dire, parce que finalement, vous allez payer en fonction de vos revenus. Enfin, de vos revenus, de vos possessions immobilières, hein, essentiellement. L'impôt indirect, il est plutôt inéquitable parce que finalement, tout le monde, quel que soit son niveau de richesse, va payer le même pourcentage par rapport à des denrées, à des achats, etc.
Donc, par exemple, aujourd'hui, l'impôt sur le revenu est un impôt direct et l'impôt de la TVA est un impôt indirect.
Oui, oui, tout à fait. Et donc, on voit bien que les élites, par exemple, essaient de privilégier un impôt indirect. Et donc, l'une des revendications des populations, enfin, en tout cas les plus pauvres, c'est plutôt de privilégier un impôt direct. Notamment parce que les plus pauvres, à l'époque médiévale, sont exemptés d'impôts directs. Comme aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Donc, il y a cette question de la fiscalité. Et l'autre question, en fait, c'est la question de la légitime défense. C'est-à-dire que les états généraux, et on le voit hein, dans un certain nombre d'ordonnances royales, arrivent à faire passer auprès du roi l'idée que des paysans qui se défendent même par les armes, eh bien, ne sont pas passibles de la justice. Ce qui est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que jusque-là, un paysan qui tue, par exemple, un soldat du roi de France, bah, il est quand même passible de pendaison. Et là, on voit émerger cette idée de la légitime défense des communautés paysannes à organiser leur propre défense et à se battre contre des routiers qui viendraient les agresser.
de manière illégale, d'une certaine manière. Les routiers n'ont pas à faire ça, a priori.
Les routiers n'ont pas à faire ça, mais pas du tout, normalement. Donc, voilà, on voit les choses changer et on voit qu'elles passent dans un certain nombre d'ordonnances par le biais de ces états généraux.
Est-ce que c'est à cette période-là que la ville de Nîmes a rapetissé ? Je sais qu'à l'époque romaine, la Nîmes romaine, c'était immense. Puis à un moment, à l'époque médiévale, la ville a rapetissé. Il y a eu des remparts pour un peu concentrer la population pour se défendre. Est-ce que c'est à l'époque du Ticinat?
Alors, c'est bien antérieur. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, toutes les villes connaissent des périodes, disons, de flux et de reflux, oui, hein, en termes de population. Le gros effondrement de la population des villes romaines, il se situe plutôt à la fin de l'Empire, à la fin de l'Empire romain. Donc, essentiellement à partir des 4e et 5e siècles.
D'accord.
Et donc là, vous avez un repli urbain qui est extrêmement fort, puis vous avez une reprise démographique, et cette reprise démographique, elle est très forte, notamment au 12e et 13e siècle. Donc là, on a quasiment un maximum urbain au début du, un maximum de population, d'ailleurs, hein, début du 14e siècle, dans les années 1320 à peu près. Et ensuite, vous avez bien sûr ce grand choc démographique qui est la peste, qui arrive en 1347-1348.
Donc la révolte des Tuchins vient après cette période de la peste.
Oui, tout à fait. Donc voilà, cette peste de 1347-1348, on estime qu'elle tue à peu près un tiers de la population européenne. Ce qui est quand même tout à fait considérable. Donc là, vous avez un effondrement démographique qui est très fort. Mais les Tuchins, ils sont pour rien.
Non, ils sont pour rien. Mais alors, les Tuchins, est-ce qu'il y en a qui étaient espions dans les états généraux, qui avaient leurs entrées, ou est-ce qu'ils avaient des comptes rendus des états généraux pour réagir? Comment ça marchait?
Alors, non, c'est quelque chose de beaucoup plus informel. C'est-à-dire que les Tuchins n'ont pas accès directement à ces états généraux.
Bah oui.
Bon. En revanche, ils peuvent, eux, connaître des gens qui connaissent eux-mêmes des délégués aux états généraux. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires, en fait, entre les Tuchins et les délégués des états généraux.
Il y a eu des avancées dans tout ça? Est-ce qu'il y a des bonnes choses qui sont mises en place, ou ça a été la foire pendant plusieurs dizaines d'années?
Alors non, pas pendant plusieurs dizaines d'années. La révolte des Tuchins, on la voit surgir à la fin de l'année 1381, automne 1381.
D'accord.
À peu près. Et elle va durer grosso modo jusque juin 1383.
D'accord.
Donc c'est quand même relativement long, hein, encore une fois, pour une révolte médiévale, c'est quand même assez long. Et en juin 1383, on voit qu'il y a une répression militaire très très forte qui est organisée, avec beaucoup de pendaisons, qui sont des pendaisons un peu voilà, expéditives. Et les derniers Tuchins qu'on repère, en fait, ils quittent la région et ils vont franchir le Rhône et passer en Provence, et on les retrouve ensuite au château des Baux de Provence, et on les voit notamment rentrer dans Arles à un moment en 1384, et puis on finit par perdre leurs traces un peu après 1384.
Bon, ils sont morts, sûrement, ou ils se sont assagis quelque part, mais...
Alors, oui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse partie, visiblement, des Tuchins revient à la vie civile, hein, c'est-à-dire ceux qui ont échappé à la répression, on les retrouve après, on arrive parfois miraculeusement à les suivre dans les documents, et on voit qu'ils se sont réinsérés, finalement, dans leur village d'origine, dans leur communauté d'origine. Et il y a une partie, visiblement, qui ne revient pas à la vie civile d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils suivent finalement la voie d'un certain mercenariat, ils se militarisent, et ensuite on les retrouve en Provence, parce qu'il y a une guerre civile en Provence à ce moment-là, en 1384.
D'accord, ils vont faire la guerre ailleurs.
Oui, exactement.
On connaît ça un petit peu. Il y a des choses qui me paraissent un peu contemporaines dans ce que vous racontez quand même.
Le Moyen-Âge est très très contemporain, en fait.
Ça doit être hyper intéressant de voir les comptes rendus de ces états généraux et de voir d'une fois à l'autre qu'est-ce qui a évolué, quelles sont les demandes, quelles sont les discussions. Tout n'est pas écrit, mais...
Alors non, tout n'est pas écrit. Ce qu'on a, malheureusement, les délibérations des états généraux sont rarement conservées. Ce qu'on a souvent, c'est le résultat final.
Ouais.
C'est-à-dire, en fait, simplement le procès-verbal.
Ça doit être quand même hyper intéressant comme mine d'informations.
Oui, tout à fait. Oui, oui, on apprend tout un tas de choses.
On se retrouve demain, Vincent Chalet, pour continuer de parler de cette révolte des Tuchins et qu'est-ce que Aiguèze a à faire là-dedans. À demain.
À demain.